10h51, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, 88-971-102.1. Ben, Audrey, t'es déstressé un peu.
Je suis une personne stressée,
définitivement. Il va être là, ton Guillaume.
C'est épouvantable. Non, mais là, on l'avait perdu, je me disais, ça y est.
Ça y est. Ça y est, c'est la fin. C'est l'anxiété.
Non, mais tu vois, j'ai besoin d'un marceau dans ma vie. C'est ça l'affaire. Quand t'es stressé, il te faut quelqu'un qui est comme bien drabe pour ramener tout ça.
Oui. Sauf que je peux être une plaie d'Égypte aussi pour toi.
C'est vrai que t'es une plaie, mais ça, on en reparlera un
autre moment. Parce que... tellement pas nerveux que ça, des fois, ça laisse craindre le pire pour les gens qui le sont.
Ouais, c'est vrai qu'on dirait que tu t'en fous.
Ouais, mais je m'en fous pas. C'est j'en juste que je me dis tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. Mettons que, mettons dans le cas de Guillaume, on avait perdu le Zoom. Dans le cas qu'on n'a pas Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire d'autres choses. On va jaser.
On peut faire de la radio. Non, t'as raison, mais ça prenait Guillaume ce matin pour poursuivre le sujet, tu comprends?
Guillaume Duluth, puis t'en parler de l'anxiété, puis du stress et tout ça. C'est un spécialiste. Guillaume Duluth, c'est un docteur en psychologie. Il est avec nous. Salut, Guillaume!
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Toi, t'es-tu un gars stressé dans la vie ou t'es un peu comme moi? C'est-à-dire, regarde, si la fin du monde a à arriver, ben elle arrivera, puis on fera avec ou non?
Je suis pas un gars qui est très, très stressé. Non, je suis pas un gars qui est très anxieux.
Pis t'as pas l'air.
Est-ce que tu tombes sur les nerfs des anxieux puis des stressés?
Non, mais des fois, je suis tellement déterminé pour certains objectifs que là, je peux être hyper, hyper focus.
Ouais.
Et c'est là que je tombe plus ses nerfs aux autres.
Je comprends totalement. Guillaume, on te parle aujourd'hui parce que on voulait faire, en fait, notre sujet en deux temps. C'est-à-dire qu'on voulait parler avec quelqu'un qui pratique le survivalisme, autrement appelé le citoyen prévoyant, là. Mais on voulait après ça voir la psychologie de la survie, la psychologie qu'il y a derrière ces comportements-là. Puis on l'a posé tantôt la question à Mathieu Montaroux, mais j'ai comme envie de te la reposer. Est-ce que, selon toi, les survivalistes, c'est des anxieux?
Moi, j'aurais beaucoup de difficultés à te répondre que non. Parce que l'idée là, du survivalisme, c'est l'anticipation dans le futur d'un phénomène théorique qui n'est pas arrivé, mais qu'on imagine qu'il peut arriver. Donc, ce mécanisme-là d'imagination, de scénario futur catastrophique ou négatif qui va amener de la douleur et ou une perte, l'anxiété, c'est responsable de faire ça, de cette imagination-là. Donc, quelqu'un qui a vraiment, vraiment pas beaucoup d'anxiété, il va être beaucoup moins enclin à s'imaginer les choses futures qui peut arriver.
Ouais. Il y a des petites choses logiques, là, comme on jasait tout à l'heure avec Mathieu Montaroux. Moi, dans mon véhicule, j'ai mes trucs, là, les trousses de premiers soins, puis mes trucs, si jamais je fais un accident l'hiver, ben, j'ai la petite couverte en attendant l'arrivée des renforts, de l'ambulance ou de la police ou du remorqueur. T'sais, il y a des petites choses de base, mais on dirait, moi, je ne dénote pas d'anxiété chez moi, comme quoi il va arriver quelque chose d'improbable, comme une guerre civile. T'sais, Je parlais avec Véro tantôt d'un film que j'avais vu au cinéma, qu'elle a vu hier. Puis c'est ça, c'est une guerre civile qui se passe aux États-Unis. Puis la finale, c'est les journalistes accompagnent des militaires à l'intérieur de la Maison-Blanche. Tu sais de quel film je parle, là? C'est juste que je ne l'ai pas en tête. Tu sais, je ne pense jamais, jamais, jamais à ce pire-là qui pourrait faire en sorte que
moi non plus.
Je développerais une phobie de fin du monde puis que je commencerais à m'équiper pour toffer pendant un an, deux ans, trois ans. Puis je parlais tout à l'heure avec Mathieu Montaroux. Le documentaire que j'avais vu, c'est un documentaire qui avait été fait aux États-Unis, les gars vont jusqu'à s'armer parce qu'ils se disent « Moi, je suis tellement bien équipé que si jamais il y a une guerre civile, la plupart des citoyens qui m'entourent vont venir chez moi pour voler mes vivres, pour me voler moi. Mm-hmm. » Donc, ces gens-là peuvent même devenir agressifs là, si tu approches de leur terrain.
Oui, mais c'est un peu contrôlant comme comportement. Là. C'est un peu... je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu extrême.
C'est mon fusil.
Ah oui, c'est ça. Toi, je ne approche pas.
Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant sur le plan psychologique et culturel, ce phénomène-là, parce que la question, c'est, est où la ligne de ce qui est sain en termes de préparation? Comment tu fais pour savoir, pour dire, OK, je suis assez préparé, mais sans exagérer, sans être un fanatique là, t'sais, de bunker à l'infini et de prévoir des désastres qui n'arriveront jamais? Où est cette ligne-là? Et c'est très difficile à mettre parce que ça dépend beaucoup de ta culture, ça dépend de ce que tu as vécu dans le passé, ça dépend de ton histoire à toi, ça dépend de... comme par exemple au Canada, on est une culture qui est très, très relaxe. On n'a jamais eu de grand, grand trauma, on n'a jamais été envahi par aucun autre pays. On a une certaine naïveté au Canada.
Ouais.
C'est un pays qui a une histoire confortable. C'est sûr que ça va laisser une espèce de candeur et de confiance un peu en le système, que ça va bien aller, que les choses ne sont pas si pires que ça, on peut faire confiance les uns aux autres. Donc, ça va installer une culture qui est comme ça. Donc, quand on regarde nos voisins qui ont une histoire qui est complètement différente, on se dit, ah oui, ça c'est l'extrême droite, et tu sais, il y a toutes sortes de façons politiques hein, de nommer ça. Mais en réalité, c'est parce que ça dépend beaucoup de ce que tu as vécu, tes valeurs, puis à quoi tu veux te préparer, si tu as déjà vécu ou non ça.
Ça peut-tu faire partie de l'éducation un peu aussi? J'imagine que, tu sais, si t'es d'une famille où tout le monde est super prévoyant, stressé constamment, puis envisage le pire, tu peux comme pas faire autrement, là?
Oui, bien ça, on parlait de l'influence de la culture en général, mais tu as ta culture parentale, tu as ta culture familiale immédiate. Tu sais, juste mettons, on dit, on s'en va en camping, tout le monde. Ben, il va falloir que tu te prévoies quelque chose. Il va falloir, hey, t'avais-tu amené ça au cas que, quand quand tu voyages, tu es en constante déstabilisation, ça t'amène à te projeter un peu dans le futur. Donc, tu sais, on parle de survivaliste comme s'il y a comme deux catégories, là, soit tu te fais un bunker ou soit rien, mais comme monsieur le disait tantôt, tu as toute une gradation de, dans le fond, te préparer à des éventualités dans le futur. C'est au début, on va appeler ça plus des éléments de sécurité de base, puis après ça, ben, plus tu imagines un scénario complexe, plus là, on rentre dans les grands cataclysmes, là, la peur des grands cataclysmes. Donc, c'est un gradient qui peut aller là, de l'infini à l'infini, quasiment.
Mais comment tu fais pour pas tomber dans l'extrême? Parce que j'ai l'impression qu'on peut se faire des peurs jusqu'à la fin des temps, là.
Ça, c'est la grande question de l'anxiété. Okay? Mettons, une personne anxieuse va toujours dire ça et va toujours dire oui, mais ça se pourrait que ça se passe. Et c'est ça le piège, c'est de dire OK, mais quels sont les éléments dans la réalité qui nous laissent croire statistiquement que les chances sont élevées pour que ça se produise? Parce que dans la théorie, tout peut arriver. C'est vrai que tout peut arriver, mais on ne peut pas vivre comme ça. C'est là où il faut rester sur les deux pieds sur la terre. C'est être capable d'intégrer des éléments de la réalité et se dire, dans cette mesure-là, voici ce qui est raisonnable pour prévoir tant, 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 tant de risques. Donc, c'est une question de jugement sur quels sont les indices dans la réalité qui laissent présager tel ou tel événement, puis en conséquence de ça, tu peux te préparer. Mais si tu dis, oui, mais ça peut toujours arriver, cette phrase-là, elle est magique parce que elle va faire en sorte que tu dois te préparer contre tout, d'où un bunker anti-missile, d'où un bunker anti-nucléaire, anti-météorite, parce que tout est arrivé, tout est possible, mais théoriquement. Donc, elle a la ligne. C'est quoi les statistiques réelles versus théoriquement?
Toi, tu as parcouru le monde, là. Bon, on parlait du Canada, des États-Unis, des documentaires qu'on avait vus chez les survivalistes. Tu as été sur le continent africain, tu as visité plusieurs pays. Ça existe-tu, cette forme de survivalisme-là, en Afrique?
Alors, ça dépend dans quelle culture tu vas. Je dirais plus que non. Encore là, ça dépend de culture en culture, mais plus tu vas dans une région qui est pauvre, plus les gens pensent au jour le jour. Donc, déjà là, le futur n'existe pas. Okay? Donc, il y a des cultures où demain matin, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer, mais ils vont s'arranger demain matin. Donc, le futur ou le moment présent est pas mal tout ce qu'il y a. Donc, si tu focuses sur le moment présent, l'anxiété, oublie ça. Tu n'en as pas d'anxiété. La peur du futur, oublie ça. La prévoyance, oublie ça. Mais tu oublies aussi de construire pour demain. Donc, c'est là où, vous comprenez ce que je veux dire? Ça vient avec une mentalité par rapport au
Mais
futur.
je trouve quasiment ça
C'est-à-dire.
mieux, on dirait.
Pardon?
Je trouve quasiment ça mieux, on dirait.
Ben, c'est parce que si tu ne penses pas à demain, tu ne construis rien. Tu te contentes de ce qu'il y a dans l'immédiat. Si tu veux penser à demain, ça veut dire que tu dois aussi projeter des bons scénarios et des moins bons scénarios.
Mais tu trouves pas que c'est
Donc, tu es
ironique, Guillaume?
anxieux. Pardon?
Tu trouves pas que c'est ironique? T'sais, on est dans une société où on a créé un peu ces stress-là autour de nous-mêmes, puis on recherche constamment dans nos pratiques pour se calmer le fait de revenir à la base, justement, puis d'être dans le moment présent, puis de pas penser à demain, t'sais.
Oui, mais c'est parce qu'on a la conversation qu'on a là en ce moment sur Internet, alors que je suis en Amérique du Sud, à cause d'une technologie qui a été créée par les humains parce que les humains rêvaient de projets. Et les humains s'organisent pour créer du confort et de la technologie. Et ça ne se fait qu'en pensant à demain, et à après-demain et dans 5 ans. Donc, ça fait en sorte qu'on construit un monde merveilleux, extrêmement puissant, rapide et confortable. La contrepartie, c'est que notre cerveau a de la difficulté à être dans l'instant présent. C'est ça le défi. C'est quand est-ce que tu es capable de te déploguer sur le futur puis focusser sur où est-ce que tu es en ce moment, mais de continuer à travailler pour ton futur. Alors, c'est ça le défi. Ce n'est pas de jeter l'un ou l'autre, de dire non, c'est vrai, là, il faut que je focus sur l'instant présent, le futur n'existe pas. C'est comme non. On a un projet à construire, on a une vie à construire, puis on a une société à construire, les enfants s'en viennent, puis on a un projet avec eux autres. Il faut penser au futur, mais il faut aussi être capable de rester dans le présent. Cet équilibre-là est difficile parce qu'il y a toutes sortes de façons dont le cerveau va se sécuriser et compenser, entre autres en exagérant des scénarios catastrophiques du futur où tu dis, mais pourquoi tu as 32 mitraillettes puis 800 caisses de bin? C'est comme, ouais, mais si. C'est comme, ouais, mais c'est là où tu n'es pas tout à fait là.
C'est
Tu as
maladif.
quitté une partie du monde dont tu n'es plus capable de profiter dans l'instant présent, ici, toi et moi, en ce moment.
Mais c'est comme si on revenait tu sais, à des années, à des milliers d'années avant où les gens devaient protéger leurs ressources. Il y avait une source d'eau potable, ils la protégeaient, cette source d'eau potable-là, parce qu'ils dépendaient de cette source d'eau potable-là. Ils protégeaient leurs propres troupeaux, ils protégeaient leurs propres tribus. C'est comme si ces gens-là revenaient un peu à ce que nos ancêtres vivaient, mais poussaient ça un peu à l'extrême. Tu sais, tu m'avais déjà jasé dans d'anciennes interviews qu'on avait eues ensemble, de gens qui étaient dans un sentier puis qui s'imaginaient constamment qu'au bout du sentier, ils pouvaient avoir une bête féroce qui leur saute dessus. Puis aujourd'hui, tu sais, on a encore cette même petite anxiété-là ou encore ce même petit stress-là, mais il n'y en a pas de bête féroce. Elle n'existe pas, la bête. Mais ces gens-là ont toujours peur qu'il arrive de quoi au bout du sentier. Ça doit être un calvaire vivre là-dedans tous les jours, parfois, quand c'est à l'extrême, là.
Oh oui, totalement.
Oui, puis l'affaire, c'est que une des pires choses que tu peux faire au cerveau pour le droguer, c'est ce qu'on appelle un renforcement intermittent. C'est-à-dire que une peur, mettons, puis elle n'est jamais renforcée. Donc, si elle n'est jamais renforcée, avec le temps, elle va disparaître. Mais si tu la renforces juste des fois, juste une fois par 10 ans, mettons, tu viens de concrétiser et de prouver au cerveau qu'il a bien fait de s'en faire pendant 10 ans. Donc, si tu fais un renforcement qui est intermittent, tu augmentes ta capacité à ruminer et anticiper quelque chose qui, ça va être très rare, qu'est-ce qui va arriver. Tu faisais référence au papier de toilette tantôt, je t'entendais dans l'entrevue, là. Ça, là, c'est ça, c'est ça l'exemple. C'est là, ça se peut qu'il n'y en ait pas pour moi pour la première fois de ma vie. Ça se peut que ça manque. Ça, là, ça c'est sûr que ça laisse un trauma. Puis là, on parle de papier de toilette, là, mais le cerveau, il anticipe le même scénario aux choses encore plus importantes, nourriture, aux médicaments.
La population s'est littéralement scindée en deux à ce moment-là. La gang de caves qui n'a pas pensé à aller chercher du papier de toilette, puis ceux qui en ont ramassé comme huit caisses.
Mais il y avait beaucoup de, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui agissaient par mimétisme, là. Donc, la personne achète énormément de papier de
Il faut que
toilette.
je le fasse moi
Il faut
aussi,
que je le
oui.
fasse moi aussi parce qu'il y a une information que je n'ai pas. Mais au moins, je vais avoir le papier de toilette, ce qui fait en sorte que je vais me sentir mieux. Je vais me sentir plus confortable avec ces milliers de rouleaux de papier de toilette-là. Il y avait beaucoup de mimétisme, mais c'est vrai, le papier de toilette, là, ça a commencé. C'est un mouvement qui a commencé dans l'Est, puis après ça, ben, c'est revenu vers le Canada, les États-Unis, puis là, ben, on a entendu parler.
Oui, puis c'est que ça nous donne une idée de à quel point le tissu social ou la psychologie sociale, ça ne tient pas à grand-chose. C'est très, très sensible. Et ça, pour moi, je trouve que les survivalistes l'ont quand même bien identifié. C'est pas juste une question de ressources ou de guerre. C'est une question que si il y a des gens qui pètent une coche, comme on dit, là, et que ça se propage comme ça, et une panique part, ça se fait comme ça, même si ça part de papier de toilette. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un monde d'humains. C'est les humains qui lèguent le show. Si les humains, le trois quarts vire à gauche, ça s'en va à gauche. Donc, si tu as une panique qui part à gauche, et ça va vite. Hein, c'est comme allumer un feu dans un champ de foin, là. Ça va très
Et on est
rapidement. Donc,
fragile.
autant je ne suis pas anxieux avec le futur de ces choses-là, puis autant j'aime bien le camping, puis tu sais, là, se préparer, puis toutes ces affaires-là, tu vis, c'est bien intéressant. Mais moi, je ne me sens pas anxieux par rapport à ça. Mais je suis aussi conscient, étant donné ma job en psycho, que les humains, ça leur prend un cheveu pour dérailler. Un cheveu, et ça déraille. Donc, c'est sensible.
Guillaume Duluth, ça me tente de te poser une question totalement débile, mais en même temps, je pense que ça va faire rire bien du monde. Ben, quoi qu'on ait juste trois ici en studio,
Oui,
personne d'autre
ta
qui écoute.
famille.
Oui, oui.
T'sais, on fait comment pour savoir qu'on n'est pas fou en tant qu'être humain?
D'habitude, mon conseil, c'est d'assumer que tu es un peu fou et de déterminer un pourcentage qui est plus approprié. Donc, moi, je te
OK.
dirais pars avec oui. Puis après ça, dis, avec cette folie-là que tu as, est-ce que tu es capable de coexister dans un monde? Et bon, généralement, ben, il y a certains marqueurs, c'est-à-dire régulation des émotions, capacité d'avoir des interactions sociales stables, être
Ouais.
capable de mener à bien des projets, être capable d'avoir des fonctions neurovégétatives normales, c'est-à-dire se nourrir, dormir. Bon, quand tu regardes l'ensemble de ces fonctions-là, puis tu dis oui, tout ça se fait, et des fois j'ai l'impression d'être un petit peu fou, ben c'est comme oui, ça fait un petit peu partie de l'humain, ça.
Parce que le redneck américain que je parlais dans le documentaire, lui, là, il est équipé pour. C'est comme si c'était une armée, là. T'sais, il peut recevoir 300 personnes dans son bunker, les armer, les habiller, puis il peut avoir sa propre armée dans son bunker.
Ouais.
Moi, à mes yeux à moi, ce gars-là, il est fou, mais lui, il pense qu'il est très intelligent,
Ah,
là.
il pense qu'il est au-dessus des autres, là.
Mais
Ouais.
c'est peut-être moi qui est fou, je sais pas.
Non, mais je me pose souvent la question, je suis innocente. Tu sais, la lignée. Non, mais tu sais, je vais prendre un exemple parallèle un peu bizarre, là. Tu sais, on dit que les chiens viennent des loups. Les loups, c'est comme si c'était, mettons, là, je vais dire, les plus intelligents de la gang dans ce cas-là. Puis des fois, je me sens comme le chihuahua, tu sais, la dernière de la lignée, le dernier produit un peu mal fait au bout. Puis je me dis, j'ai-tu pas assez d'instinct, dans le fond? Tu sais, c'est ça pareil, là. Tu sais, on vient des chimpanzés, là, puis des homo sapiens et compagnie. On avait de l'instinct. Puis
Ouais.
j'ai l'impression que la majorité, on a perdu cet instinct-là. Puis c'est pour ça qu'on devient des suiveurs aussi. Le papier de toilette est encore un bon
T'en
exemple.
as-tu à vendre, Audrey? Ça fait une couple de
Du
fois que
papier de
t'en parles.
toilette?
Ouais, c'est ça.
Non, j'en manque. Moi,
Tu
j'ai
veux.
été celle qui a oublié d'y aller.
Ben, c'est sûr je pense que le confort, le fait d'être dans un monde confortable, inévitablement laisse une espèce de nombrilisme normal. C'est-à-dire, j'ai juste besoin de me focusser sur mes petits besoins quotidiens. Mes petits bobos, je peux chialer sur mes petites affaires. T'sais. Le confort fait en sorte que l'attention va se river sur toi-même, sur le chou, la roche que tu as dans le soulier. Par contre, quand tu te mets à voyager puis tu commences à vivre dans des pays qui sont beaucoup plus défavorisés, ben, ta roche dans ton soulier, tu la sens plus parce que tu deviens connecté sur d'autres choses qui sont très, très, très importantes. Sur ce qui se passe actuellement autour de toi, puis qu'il faut que tu manges, puis il faut que tu dormes à quelque part, puis il faut que tu fasses attention avec qui tu t'approches. Puis... Donc, ça dépend du monde où tu grandis, hein. On est dans un monde hyper confortable. Ça vient avec ça. Moi, je n'ai pas tendance à catégoriser les gens de fous là, t'sais, ou de pas fous là, t'sais, dans des gros bunkers, petits bunkers, parce que pour moi, ça s'apparente trop à la culture. La culture va faire tellement de grandes variabilités d'interprétation. Juste la religion va changer beaucoup de choses. Donc, tu sais, c'est des visions du monde. Puis la question, c'est est-ce que cette vision du monde-là est connectée avec la réalité? C'est là où on peut dire plus ou moins, mais il y a beaucoup d'humains sur la Terre, il y a beaucoup d'histoires différentes, il y a des types de traumas différents. Et des humains, mais ça réagit à ça. Il y en a qui réagissent. Il y en a qui sont très déterminés à ce que ça leur arrivera plus jamais. Donc, ils prennent tous les moyens. Ça dépend de leur trait de personnalité en plus.
Ouais.
Et donc, c'est ça l'humanité, hein. C'est une grande, grande diversité de conception des choses.
Guillaume Duluth, docteur en psychologie, là, tu es en Amérique du Sud. Est-ce que tu es là par affaires ou par voyage seulement?
J'habite au Panama, moi.
Ah oui, la grosse misère,
Ouais.
hein?
C'est quand même hot.
Mais
Non,
le
mais il a fait
Panama.
son chemin pour aller là, tu
Ben
sais,
oui,
c'est
mais
des choix.
le Panama, c'est comme une des nouvelles destinations incroyables pour les Canadiens. Là. Tu dois en voir énormément là, arriver là, dans les dernières semaines. Tout le monde va aller
Et
faire son petit tour au Panama.
oui, ça sort pas mal la grande porte là, par le Canada, là.
Bon, on s'en vient t'envahir, Guillaume. Hey, est-ce que tu vas être de passage dans quelques semaines dans le secteur de Montréal? Parce que tu as un gros show, là. Ça s'appelle l'événement Y 2024. Ça va être au Centre Bell le 20 octobre prochain.
Oui, merci. Oui, c'est un événement qui est super important pour moi. C'est le 20 octobre prochain au Centre Bell. C'est une journée de séminaire en psychologie qui est selon moi unique. Ça n'a jamais été fait. Ça sert à condenser en une journée les meilleures stratégies, outils pour faire en sorte que tes choix aient du sens, que tes choix produisent des résultats qui t'intéressent dans la vie. Et ceci est l'antipode de reproduire ce qu'on appelle des patterns. Alors, ce qui est très difficile dans la vie, c'est se sortir de patterns ou pas reproduire des choses ou sentir que notre vie tourne en rond. Alors, il y a des mécanismes qui expliquent ça. Il y a des mécanismes pour se sortir de ça. Il y a des mécanismes qui créent du sens, qui augmentent la passion individuelle, qui augmentent la passion et les relations dans le couple, qui augmentent le fait de, qui augmentent notre courage, notre capacité à être résilient. Donc, on parle de ça et je vais être aidé par Serena Williams, que je vais avoir la chance d'interviewer live sur la scène. Je vais essayer de comprendre comment elle pense pour faire ressortir certaines habitudes, certaines choses qu'elle fait qui sont faisables parce que les sœurs Williams, ce n'est pas un hasard. Ils ont été littéralement construites. Et donc, je vais expliquer comment ça se fait, ça, et qu'on est capable de faire beaucoup, beaucoup de ça. Donc, c'est des super bonnes nouvelles pour moi. C'est un grand rêve et j'invite tout le monde à être là. C'est bientôt et vous allez apprendre énormément des choses assez importantes.
On peut se procurer les billets comment?
Vous allez sur mon site web et vous cliquez sur l'onglet l'événement Y et il y a plusieurs disponibles, plusieurs types de billets disponibles pour vous. Et je rappelle que tous les fonds sont redonnés aux écoles du Québec. Donc, l'objectif, c'est vraiment parler du courage, de responsabilité individuelle et de bonnes stratégies, autant pour les enfants, pour les entrepreneurs que pour les parents et pour les jeunes. Donc, c'est vraiment pour tout le monde.
Donc, il va y avoir Serena Williams qui va être là. Il va y avoir mon préféré, Chris Hadfield, l'astronaute.
Exactement, oui, ton préféré, oui, tu me l'avais
Ouais.
dit, oui, qui va être
Toi,
là.
t'es mon deuxième préféré, mais Chris Hadfield, parce qu'il était dans
Ah. S'il y a un
l'espace,
petit quelque chose.
parce qu'il était dans l'espace, puis toi, ben, tu nous énerves un peu en étant au Panama. T'es mon deuxième préféré.
Et il y a Anthony Cavanaugh aussi
Ben
qui va
oui.
être là,
Oui.
qui est en train de vous adorer, là, qui va être là parce que c'est un gars qui est très profond, Anthony, et qui est très drôle, et
Ouais.
qui est très versatile, donc il va venir enrober la journée avec moi.
Guillaume Dulude, ça a été un plaisir.
Hey, merci beaucoup.
Au
À la
revoir. Bye-bye,
prochaine.
Guillaume Dulude, qui est docteur en psychologie, à qui on jasait parce qu'on voulait en savoir plus là, sur le merveilleux monde des survivalistes. Comment
Mais
ces gens-là
je trouve ça
pensent?
fou, en fait, comment c'est vraiment une question d'instinct au final. Puis il y a une psychiatre qui s'appelle Sonia Lupien. Tu as sûrement déjà entendu parler
Oui,
d'elle.
bien
Yann a
sûr,
fait
oui.
plein de podcasts, elle est un peu partout. Tu sais, elle est directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Là. Fait qu'elle connaît ses affaires. Puis elle, quand elle parle de l'anxiété généralisée, la différence entre le stress et l'anxiété aussi, elle utilise souvent l'image du mammouth. Qui nous ramène finalement bien en arrière, on va se le dire, mais à quel point il y a comme un instinct qui reste en nous.
Je m'ennuie du temps du mammouth, moi.
Ah oui, t'as vécu ça, toi, tout le
Parce
monde
que
le
t'es
sait,
revenu à
mais
la maison avec le mammouth, avec toute ta gang,
oui.
puis là, ta femme te regardait comme si t'étais un héros.
Oui, mais il fallait que tu l'affrontes, le mammouth, tu
Puis
sais.
là, aujourd'hui, pour passer pour un héros, là, faut que tu sortes les vidanges.
Puis que tu fasses du ménage.
Faut que tu fasses du ménage.
Hey, c'est sexy, un gars qui fait du ménage, là, je vous le dis, là. On en a besoin. Hey, en
À
passant,
part ces messages,
oui,
là.
je voulais te revenir. Le film que tu cherchais tantôt, c'est carrément Civil War, c'est carrément Guerre
Guerre
civile
civile,
que
oui.
ça s'appelle au cinéma. Puis je ne sais pas si c'est la série dont tu parlais, mais peut-être que ça va intéresser les curieux. Il y a un auditeur qui nous a parlé d'une série américaine, Doomsday Preppers, famille apocalyptique, c'est 4 saisons. Ça a commencé en 2011, cette affaire-là, là. Puis tu es vraiment dans l'extrême du survivalisme. Ça avait été diffusé sur le National Geographic Channel à peu près de 2012 à 2014. Puis maintenant, c'est disponible partout sur YouTube. Fait que si jamais vous cherchez des documentaires là, ou à approfondir le sujet des survivalistes, ben c'est une autre possibilité, Doomsday
Ça te fait un beau chalet, pareil, dans une montagne, là, t'enterres un conteneur. Tu sais, un gros conteneur,
Ah,
là,
mais
qui
c'est
sont sur les
malade.
bateaux, là.
Oui.
Tu l'enterres, tu te mets une petite chaufferette, là.
Ça devrait être des hébergements insolites. Ils devraient faire ça sans
Ouais.
joke, puis tu sais, faire payer le monde pour aller habiter là à fin de semaine, mais le moment où il y a vraiment une catastrophe, là, toi, tu peux aller t'enfermer.
Vivre comme un hobbit.
Je vous donne un plan de business, là. Prenez-le,
Ouais,
faites de quoi avec
ouais.
ça.
On charge 10 %.
Voilà.
On vient.
Boulevard 102 à.